si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse au chapitre 5 et verset 1 à 14, tout le chapitre. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 14. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte : qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alors aujourd'hui, on va commencer l'étude du chapitre 5, qui est vraiment une continuité avec le chapitre 4. On se doit de retenir l'idée que les chapitres 4 et 5 sont 2 chapitres qui vont vraiment strictement ensemble et qu'ils sont et que le chapitre 5 se trouve à être la description un peu plus détaillée du principe qui est déjà énoncé dans le chapitre 4, c'est que Dieu est sur le trône et qu'il règne de façon absolue sur tous les événements qui se produisent dans l'univers et plus particulièrement sur la Terre. Alors j'ai intitulé aujourd'hui le sermon du chapitre 5 « Le livre scellé de 7 sceaux, ouvert par Christ ». Alors j'ai divisé le texte en 3 parties. On va regarder le contenu du livre dont on parle, et qui est le décret divin. Et on va expliquer un peu plus en profondeur tantôt quelle est la nature du décret. Et ça, c'est dans le verset 1. La deuxième idée qu'on va regarder, c'est l'ouverture du livre. Donc, pour ouvrir le livre, il fallait que la personne qui le fasse en soit trouvée digne. Donc, on va regarder la dignité du verset 2 au verset 7. La dignité nécessaire pour prendre le livre, le regarder, l'ouvrir et l'exécuter aussi. Et la troisième idée qu'on va regarder, c'est la prise du livre par l'agneau. Autrement dit, l'agneau s'avance et il prend le livre de la main de Dieu le Père. Et tout cela va provoquer autour du trône trois doxologies. Donc, on va regarder la doxologie, les trois doxologies, un peu plus en détail à partir du verset 8, aller jusqu'au verset 14. Une des choses, je pense, qu'on se doit de souvenir si on veut interpréter correctement le livre de l'Apocalypse, c'est vraiment on se doit de garder à l'esprit les observations qu'on avait faites dans la leçon 4, qui venait du pasteur et théologien réformé Herman Oxema, dans son ouvrage qui s'appelle en anglais Behold, He Cometh, an Exposition of the Book of Revelation. Autrement dit, qu'on pourrait traduire en français, Voici, il vient, une exposition du livre de l'Apocalypse. Dans son introduction du chapitre 4, il avait parlé un petit peu de la suite de l'ensemble du livre, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Il nous avait rappelé un principe important à se souvenir si on veut interpréter le livre de l'Apocalypse correctement. Voici ce qu'il dit. Il divise, lui, le livre en deux grandes parties. La première partie va du chapitre 1 à 3, qu'on a déjà vu, donc le message de le Christ qui se présente à Jean, et aussi les messages qu'il donne à chacune des sept églises. Et la deuxième partie va du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, jusqu'à la fin. Et il nous conseille très fortement de ne pas oublier le thème principal du livre. Selon lui, le thème principal du livre est le suivant: le remplacement graduel du royaume de Satan par celui de Dieu en Christ. Je le répète, le remplacement graduel du royaume de Satan par celui de Dieu en Christ. Autrement dit, quand Adam tombé, toute l'humanité se trouvait tombée avec lui, et ça se trouve être le royaume du malin qui s'installait sur la terre. Mais le thème du livre de l'Apocalypse, c'est que ce royaume-là de Satan va être remplacé graduellement par celui de Dieu, mais en Christ. Alors, on continue la citation d'Oxema. Il dit: les deux royaumes sont en guerre. Mais la victoire finale du royaume de Dieu en Christ est déjà acquise et assurée. La résurrection et l'ascension de Christ en sont la preuve. Continue la citation, il dit: la bonne compréhension des chapitres 4 et 5 sont essentielles pour l'interprétation saine des chapitres 6 à 22. Le futur de l'Église et du monde est révélé à l'apôtre Jean symboliquement par les sept sceaux qu'on voit développés dans les chapitres 6 et 7, par les sept trompettes qu'on voit développées dans les chapitres 8 à 11, et par les sept coupes de la colère divine développées dans les chapitres 15 et 16. Et ensuite par la chute de la grande prostituée et des deux bêtes, dans les chapitres 17 à 19, et le jugement du dragon, qui est Satan, qui est suivi par des nouveaux cieux et une nouvelle terre, qui se trouve être la nouvelle Jérusalem, chapitres 20 à 22. Alors, Dieu accorde à Jean accès à son conseil secret. Donc, ces décrets concernant l'avenir, et ces choses arriveront certainement. En anglais, dans son livre, il dit must come to pass. Donc, must come to pass, ça veut dire que ça va arriver obligatoirement parce que ça a été décrété de Dieu, par Dieu lui-même. Alors, ces décrets, on se doit de se souvenir qu'ils sont immuables. Quelque chose qui est immuable, ça veut dire quelque chose qui ne change pas. À partir du moment où Dieu a pris la décision de ce qui était pour arriver dans l'avenir, les choses vont s'exécuter selon sa volonté. Alors, tout le cours de l'histoire a été décrété divinement avec une infinie sagesse. Ça, c'est le premier principe qu'on se doit de se souvenir pour continuer l'étude et avoir une interprétation correcte du reste du livre. La deuxième chose qu'on se doit de se rappeler, c'est l'idée maîtresse du chapitre 4 qu'on a vu la semaine dernière, qui est la suivante. Tout est dirigé depuis le trône de Dieu. Et je reprends un petit peu quelques observations qu'on avait faites la semaine dernière concernant cela, j'ai quelques observations, j'ai deux observations qui viennent du pasteur Oxema et une observation qui vient de William Hendrickson dans son livre Apocalypse plus que vainqueur. Alors je vais vous les rappeler parce qu'elles sont importantes pour comprendre le reste du livre. Alors je cite le pasteur Oxema, il dit « Parfois, nous parlons et agissons comme si les événements de l'histoire et la destinée du monde étaient entre les mains des hommes et non entre celles de Dieu. Mais les chapitres 4 et 5 apportent un correctif à cette fausse perspective et attirent nos regards sur le trône divin d'où s'exerce le gouvernement de l'univers. » Alors on a ça à la page 86 du livre de Oxema. Une autre observation que le pasteur Oxema faisait, c'était la suivante. Je cite, « Les journaux, la radio, nous rapportent les événements de l'actualité. Les hebdomadaires nous les commentent. Mais ils n'en relèvent que les causes secondaires, car c'est la pensée et la volonté du Dieu Tout-Puissant qui contrôle et dirige en fait l'univers, tout en respectant la responsabilité et la liberté des instruments humains que Dieu emploie. Rien n'échappe à sa souveraineté. Ce trône n'est pas sur la terre, mais dans le ciel. » On trouve ces idées-là dans les pages 88, 89 et 90 du livre du pasteur Oxema. Maintenant, je vais vous donner une autre observation qui est nécessaire, celle faite par William Hendrickson dans son commentaire sur l'Apocalypse plus que vainqueur, dans son livre. Alors, voici ce qu'il dit. « Ces chapitres ne nous dépeignent pas le ciel, mais l'univers entier considéré depuis le ciel. Leur but est de nous montrer au moyen de symboles que toutes choses sont dirigées par celui qui siège sur son trône. Toute chose est donc aussi les épreuves et les tribulations. C'est ce point qu'il faut souligner. C'est pourquoi la description du trône précède la description symbolique des épreuves et des tribulations que doit connaître l'Église ici-bas. Celle-ci, ces tribulations et ces épreuves sont annoncées au chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. Alors on trouve cette citation-là à la page 88 du livre de William Hendrickson, Apocalypse plus que vainqueur. Alors ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui, c'est d'étudier le chapitre 5 de l'Apocalypse. Et comme le chapitre 4 avait une idée maîtresse, le chapitre 5 aussi a une idée maîtresse, et la voici. L'idée maîtresse du chapitre 5 est que le livre scellé de sept sceaux est remis à l'agneau pour être révélé et exécuté, puis cela est suivi de l'adoration de l'agneau par tous ceux qui sont autour du trône. Alors, on répète un peu l'idée principale, et ensuite on va développer. Le livre scellé de sept sceaux est remis à l'agneau pour être révélé, donc son contenu va être révélé à Jean et aux églises par le fait même, et aussi exécuté. Donc le décret divin va être révélé à Christ, et c'est Christ qui va exécuter le contenu du décret divin. Et après que le livre va avoir été remis à Christ, on va assister à un concert, une triple doxologie. On va regarder tout ça en détail à partir du verset 8 à 14, une triple doxologie. Une doxologie, c'est tout simplement, doxo, ça veut dire gloire, et logie, ça veut dire parole. Donc, des paroles de gloire que tous les anges et les êtres vivants et les anges vont entonner pour glorifier la personne de Christ. Alors, on se doit de se souvenir de l'idée que les chapitres 4 et 5 vont carrément ensemble. On ne peut les séparer, ils vont ensemble. On va regarder ce qu'on avait dit qui était donné dans le verset 1. On avait dit que la première idée dont on voulait parler, c'était celle que le contenu du livre, c'est le décret. Le décret divin, autrement dit, un décret, c'est les décisions que Dieu a prises de toute éternité sur tout ce qui était pour se dérouler sur la terre, sur l'histoire de l'Église, l'histoire des hommes, les obstacles que Satan était pour mettre dans le chemin pour empêcher le développement du royaume de Dieu. Et autrement dit, tout ce qui était pour se dérouler dans le reste de l'univers jusqu'à ce que l'histoire humaine soit terminée. Alors, le livre, on parle d'un livre, mais on pourrait aussi facilement dire, et sans vraiment prendre une chance de se tromper, que c'est un rouleau. On va voir tantôt deux versets dans l'Ancien Testament, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament, qui nous parle que c'est fort probablement un rouleau, parce que à l'époque où que l'Apocalypse a été écrit, les livres tels qu'on les connaît aujourd'hui, reliés, des livres de papier reliés, ça n'existait pas à l'époque. Alors, c'était plus des rouleaux, comme on voit pour les Juifs quand ils lisaient les Écritures. Alors, le livre ou rouleau, si on veut, on veut prendre conscience d'abord où il est situé. Il est situé à un endroit précis, c'est dans la main droite de Dieu le Père. Alors, ça dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Qui est assis sur le trône? C'est Dieu le Père. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc, le livre ou le rouleau est situé dans la main droite de Dieu. La main droite, dans les Écritures, symbolise le pouvoir et l'autorité souveraine de Dieu. Dieu est disposé à le donner, ce livre-là et ce rouleau-là, à quelqu'un qui est digne de le recevoir pour ensuite le révéler, c'est-à-dire donner tout son contenu, et ensuite l'exécuter. Donc toutes les décisions qui ont été prises concernant l'avenir du monde, de l'Église, l'opposition de Satan, etc., tout a été décrété. Et c'est le Christ qui va être chargé de l'exécuter. Les versets dont je vous ai parlé pour justifier l'idée que c'est plus un verset qu'un livre tel qu'on les connaît aujourd'hui, c'est le verset 8 et 9 du psaume 40 qui dit « Alors, j'ai dit, voici, je viens, il est écrit de moi, dans le rouleau de ton livre. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Bien sûr, le psaume 40, dans le contexte, c'est Christ. Lorsqu'il dit « Je viens », il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Il est écrit de Christ dans le rouleau du livre. Et il dit qu'il est venu pour faire la volonté de Dieu le Père et que la loi de Dieu le Père est au-dedans de ses entrailles. Donc, autrement dit, c'est l'idée qu'il est capable de l'accomplir à la perfection. Alors, vraiment, il est un autre verset dans le chapitre 10 du livre d'Hébreux, le Nouveau Testament, les versets 7 et 8, qui disent ceci. « Alors, j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. ayant dit plus haut, « Tu n'as point voulu de victime, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, choses qui sont offertes selon la loi, et tu n'y as point pris plaisir. » Et il ajoute ensuite, « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Alors, ces deux versets-là nous parlent du rouleau du livre, et sans crainte de se tromper, on peut parler que le livre qui est dans la main droite du Père, c'est un rouleau dans lequel sa volonté concernant l'avenir, à la fois de l'humanité et à la fois de l'Église, est donnée en détail. C'est ça que Jean s'apprête à recevoir. C'est Christ qui va recevoir le livre, mais Jean reçoit la vision de cette chose-là. Autre chose qu'on se doit de remarquer concernant le contenu du livre qui le décrit, c'est que c'est par la description qui en est donnée. Un livre écrit en dedans et en dehors. Alors, le livre ou le rouleau qui est écrit en dedans et en dehors contient les pensées et les décisions de Dieu, c'est-à-dire ses desseins et les méthodes de sa providence concernant l'Église, concernant l'opposition qu'elle va recevoir au cours de son histoire, concernant les jugements des ennemis de Dieu que le Seigneur va permettre qu'ils reçoivent, et les détails aussi de l'avenir du monde en général. Alors, c'est un gros... Le livre contient, autrement dit, l'histoire du monde dans tous ses détails et jusqu'à la fin. Alors, c'est énorme de penser que toutes ces choses-là sont contenues dans le livre. Alors, le fait que le tout soit écrit, très important parce qu'il dit... Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit. Donc le Seigneur a voulu que ce livre-là, ces décrets-là, soient écrits. Donc c'est vraiment l'idée de l'immuabilité de ces décisions. Quand on parle de quelque chose, les décisions ou les décrets, l'immuabilité, ça veut dire les choses qui ont été décidées dans toute sa sagesse, dans toute sa grâce, dans tout son amour, sa miséricorde et tous ses attributs qui se reflètent là-dedans. Bien entendu, ces choses-là sont scellées dans le sens que les décisions sont immuables, elles vont arriver, elles vont se développer. Le livre aussi nous dit qu'il est scellé. Parce qu'on lit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors. Donc on parle ici de tous les événements, quand on parle en dedans, d'ailleurs, ça veut parler de tous les événements qui vont arriver dans la suite des temps. Et ensuite, quand on parle de scellé, un livre qui est scellé, un rouleau qui était scellé, c'est comme empêcher les regards indiscrets. C'est seul Dieu connaît le contenu. Et le fait qu'il soit scellé, c'est le fait qu'il soit indique que le plan de Dieu aller jusque-là n'a pas été révélé, donc le contenu ni exécuté. Donc, il se doit de l'être, mais il se doit d'être révélé à quelqu'un qui est digne d'en ouvrir les sceaux. Donc, il n'est connu le contenu du décret que de Dieu lui-même. Alors, comment on pourrait qualifier ce contenu-là? C'est qu'il est secret, il est insondable et impénétrable par l'œil humain ou par l'intellect de la créature, qu'il soit humaine ou non. Son contenu est gardé de façon absolue, à l'abri du regard des curieux et des intrus. Les sept sceaux, c'est un symbole que tout est complet. C'est un symbole de perfection. Et chacun des sceaux représente des événements que Dieu a décrétés concernant l'avenir de l'Église et concernant l'avenir du monde. On va aller maintenant à la deuxième idée qu'on a dit, qui va du verset 2 au verset 7. Donc, c'est l'ouverture du livre la dignité qui est nécessaire pour l'ouvrir. Parce que on voit au verset 2 du chapitre 5, qui se lit comme suit, « Je vis aussi un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux ?» Donc, rompre les sceaux ou délier les sceaux. La rupture des sceaux et l'ouverture du livre, bien entendu, signifie l'exécution du plan de Dieu. Encore une fois, William Hendrickson fait une remarque, une bonne remarque. Il dit, si le livre demeurait fermé, il n'y aurait ni protection pour les enfants de Dieu à l'heure douloureuse des épreuves, ni jugement pour les persécuteurs, ni victoire finale pour les croyants, ni nouveaux cieux, ni nouvelle terre, ni héritage futur. Hendrickson dit ça dans son commentaire à la page 95. Aussi faut-il qu'une personne soit trouvée digne de révéler et d'exécuter le décret divin. Alors ici, on assiste au fait qu'un ange puissant crie et met l'univers au défi de rencontrer la condition de la dignité pour avoir, regarder le livre, l'ouvrir et l'exécuter, et qu'il puisse aussi en révéler le contenu. Alors il crie cela à tout l'univers, y compris les anges, bons, mauvais, les hommes, puissants, pas puissants, à tout l'univers. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? Alors, on voit que toute la création entend la question, que ce soit les anges bons ou les anges mauvais. Le diable lui-même, Satan, entend la question. Ses serviteurs entendent la question. Toutes les hommes de la terre entendent la question et tout le monde reste muet. Autrement dit, il n'y a personne qui a assez d'audace pour s'avancer et croire qu'il a la dignité nécessaire pour recevoir le livre, en connaître le contenu, le révéler et aussi l'exécuter. Donc, on voit dans le verset 3 que la dignité nécessaire, les créatures, toutes les créatures renoncent. Donc, c'est la dignité qui est renoncée dans le verset 3. Qui dit, verset 3, il dit, « Et nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. » Alors, on observe que toute la création devient complètement silencieuse. Personne ne répond. Personne n'ose s'avancer et prétendre avoir la dignité nécessaire, qui comprend bien entendu le droit légal et la puissance aussi pour le faire. Aucune créature, donc ni les anges les plus élevés et les plus saints du ciel, ni Satan lui-même, ni les anges mauvais, ni aucun homme ne se juge digne. Si on regarde ça à la lumière de ce que les hommes ont cherché à faire dans l'histoire de l'homme, alors il y a eu des misérables tentatives du diable et des hommes à chercher à rétablir la paix et le bonheur du monde par des systèmes de pensée philosophiques ou politiques, et tous ces systèmes-là, au cours de l'histoire des hommes, on le sait parce que l'étude de l'histoire des hommes nous le démontre très abondamment, très richement. Nébuchadnezzar a essayé, Alexandre le Grand a essayé, César a essayé, Charlemagne a essayé, Napoléon a essayé, Hitler a essayé, et on pourrait allonger la liste, tant des systèmes philosophiques que des systèmes politiques. Personne n'était capable de rétablir la paix et le bonheur sur la terre. L'homme, on le sait parce que les Écritures nous le disent, ne peut d'aucune façon travailler à son propre salut, ni à celui du monde. Alors, dans le verset 4 au verset 7, ce qu'on voit, c'est que le cri de l'ange a été répondu, et on va voir de quelle façon. Alors, il y a eu d'abord Jean qui s'est rendu compte qu'il n'y a personne qui osait s'avancer, et Jean, ça dit dans le verset 4, « Et moi, je pleurai beaucoup de ce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. » Alors, on voit que Jean, il voyait tout ce qu'il y avait là-dedans, sans le voir, il comprenait le contenu était important pour l'avenir de l'Église et l'histoire des hommes qui allaient continuer à se dérouler. Et quand il a vu qu'il n'y avait personne qui répondait, il était conscient de l'importance du livre et de l'importance qu'il soit révélé et donné à quelqu'un qui puisse en ouvrir les yeux. Et dans le verset 5, ça dit « Et l'un des anciens » a remarqué que ce n'est pas un ange chérubin, mais c'est vraiment un ancien. Donc, on avait dit dans la leçon précédente que les anciens, c'était les 12 patriarches de l'Ancien Testament et l'ensemble de leurs descendants croyants, et l'ensemble des 12 apôtres et l'ensemble de leurs descendants croyants qui faisaient partie des anciens. Donc, c'est une personne qui a connu qu'est-ce que c'était le salut qui vient consoler Jean. Il dit, et l'un des anciens me dit, ne pleure point. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les sceaux. Et on continue la lecture jusqu'au verset 7. Et je regardais, et au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là, comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors, on voit ici au verset 4 que l'apôtre Jean pleure abondamment parce que personne n'est digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Quand on lit le verset 5 et qu'on voit qu'il y a un ancien qui lui dit de ne pas pleurer, c'est un ange puissant et fort qui parle, mais c'est un vieillard qui vient dire, qui a connu lui-même les effets de la rédemption en son âme, qui vient lui dire, « Ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David. » Alors, il y a des choses intéressantes qui sont données dans les titres de Christ là-dedans. C'est lui qui... Alors, il a connu les effets de la rédemption, et c'est lui qui va apporter à Jean la merveilleuse consolation que Christ, lui, peut s'avancer, peut prendre le livre, la main droite de Dieu le Père, pour à la fois le révéler, son contenu, et à la fois l'exécuter. Deux titres de Christ sont mentionnés à l'intérieur de ce passage-là pour parler de la victoire de Christ, à cause du fait. Parce qu'il dit dans le verset 5, « Le lion qui est de la tribu de Juda et le rejeton de David a vaincu. » Alors, il est important ici, il commence par lui mentionner un titre de Christ, le lion de la tribu de Juda. Alors, un lion, on sait, pour nous, c'est un animal, mais le lion de la tribu de Juda, si on fait un lien avec ce qui a déjà été prophétisé dans un passage du livre de la Genèse, on sait que le lion a toujours été pour les hommes un symbole de majesté royale et de puissance. Souvent, on va voir des lions, par exemple, dans les armoiries de certains pays qui représentent la royauté. Et c'est le livre de la Genèse qui nous fait comprendre le symbole ici qui est utilisé pour parler de la personne de Christ. Quand il dit « Ne pleure point, voici le lion qui est de la tribu de Juda. » Alors, on va... il faut reculer un petit peu, aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, les versets 8 à 10, pour bien apprécier pourquoi ce titre-là est utilisé. Bien entendu, ça fait référence à la royauté, ça fait référence à la dignité, la puissance. Et on va voir que c'était la prophétie qui avait été faite sur la tribu de Juda, en disant que le Christ viendrait de la tribu de Juda. Et on va aller lire les versets 8 à 10 du chapitre 49 de la Genèse. Ça dit, « Toi, Juda, tes frères te loueront, ta main sera sur le cou de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu es revenu du butin, mon fils, il s'est courbé, il s'est couché comme un lion, comme un vieux lion. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'écartera point de Juda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo. Repos, c'est pacificateur, à lui l'obéissance des peuples. » Alors, dans le contexte, c'est sûr qu'on ne pourra pas reprendre toute l'étude du chapitre 49 de la Genèse, mais l'idée principale, c'est que c'était une prophétie qui était dite sur la tribu de Juda, qui était un des enfants de Jacob, et il lui dit, Juda est un jeune lion, puis il lui dit que le sceptre, donc le sceptre, c'est le symbole du pouvoir, ne s'écartera point de Juda, ni le bâton du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo. Le silo, le Shiloh, dépendamment des versions, c'est vraiment jusqu'à ce que vienne le Messie. Et on donne entre parenthèses ici dans une version repos pacificateur, donc jusqu'à ce que vienne le Messie qui amènera le repos, qui sera le pacificateur des choses de la terre. À lui l'obéissance des peuples. Alors quelque part, c'est vraiment un verset important pour voir que le livre de l'Apocalypse utilise des images concernant Jésus-Christ, des titres concernant Jésus-Christ qui ont été prophétisés depuis longtemps. Puis ça dit bien jusqu'à ce que vienne le silo, autrement dit le Messie, jusqu'à ce que vienne le Messie. Donc le lion de la tribu de Juda, c'est le Christ qui avait été prophétisé dans Genèse 49 concernant le fait qu'il viendrait comme Messie pour sauver Israël et aussi le peuple de Dieu de toutes les époques. Donc, Jésus est ce lion. Il a prouvé qu'il était ce lion en remportant la victoire sur Satan et en portant jusqu'au bout sur lui le poids de la colère de Dieu. Autre chose qui est mentionnée, autre titre qui est mentionné, c'est qu'il utilise le terme « le rejeton de David ». Alors, on peut aller regarder deux versets dans le Nouveau Testament qui fait référence à ce fameux rejeton de David. Alors, on a Isaïe qui est un prophète aussi, dans les versets 1 et 2, et aussi dans le verset 10. D'Ésaïe 11. Voici ce que ça dit, Ésaïe 11, versets 1 et 2, et ensuite à verset 10. « Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe. » On se souvient qu'Isaïe, c'était le père de David. « Et un surgeon naîtra de ses racines, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de Dieu. » Et le verset 10, ça dit aussi, « En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera comme un étendard dressé pour les peuples, les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. » Voyez-vous, on parle ici, dans le contexte d'Isaïe, 11, versets 1 et 2, on en parle comme et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On parle de Christ, car ce qu'il va venir. Et ça dit que on l'appelle dans le verset 10 le rejeton de David. Donc on parle de Christ. Ces deux titres qui sont en train de nous parler, celui qui va prendre le livre, qui va révéler son contenu et qui va exécuter son contenu, c'est le Christ. Donc, il utilise les deux images du lion qui vient du livre de la Genèse, et il utilise aussi l'image du rejeton de David qui vient d'Ésaïe. Et aussi, un autre verset dans le Nouveau Testament qui nous rappelle que c'est le Christ qui est mentionné lorsqu'on parle du rejeton de David. On a Apocalypse 22, on est presque rendu à la fin du livre, lorsqu'on lit Apocalypse 22 au verset 16, ça dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses-là dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et au verset 6, on continue notre étude. Il a utilisé les deux titres du lion et le rejeton de David. Au verset 6, il dit « Et je regardais, et voici au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des anciens, un agneau. Là, était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Alors Jean, on vient d'y parler d'un lion, on vient d'y parler de la rejeton de David, et qu'est-ce qu'il voit comme étant au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des anciens? Il ne voit pas un lion, il voit un agneau, et un agneau immolé, c'est-à-dire qui a été sacrifié, un peu comme les agneaux dans l'Ancien Testament qui étaient sacrifiés. Il voit un agneau, et on sait que l'image représente Jésus-Christ, parce que le Nouveau Testament nous parle beaucoup de l'agneau. Et on peut aller regarder quelques versets, quelques-uns dans l'Ancien et quelques-uns dans le Nouveau Testament qui nous parlent de cet agneau-là. Ésaïe 53, versets 6 et 7. Alors, bien entendu, dans Ésaïe 53, c'est une prophétie qui parle des souffrances de Christ. Et cet agneau-là, bien entendu, on le sait, c'est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un agneau comme immolé. Et c'est important de faire la référence à l'Ancien Testament, comme Ésaïe 53, versets 6 et 7. Ça dit « Nous étions tous errants, comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin. Et l'Éternel a fait venir sur lui et l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé, et il n'ouvre point la bouche, comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'ouvre point la bouche. » Tout le chapitre 53 du livre d'Ésaïe nous parle des souffrances de Christ, et justement, il utilise l'image de l'agneau, l'agneau de Dieu qui est mené comme un... Il dit, il n'ouvre point la bouche. Très important de saisir cela. Et on peut aussi faire un lien avec ce qui est annoncé dans le Nouveau Testament. Il y aurait beaucoup de passages qu'on pourrait utiliser dans le Nouveau Testament où on parle de Jésus comme étant l'agneau. On va en prendre seulement un. Dans le verset 29 de Jean, au chapitre 1, ici, bien entendu, on a Jean-Baptiste. Et ici, ça dit « Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, qu'est-ce qu'il voit au milieu du trône? Il voit un agneau comme immolé. Et cet agneau-là a des caractéristiques, il a les sept cornes. On peut dire que ce sont les cornes, dans les Écritures, c'est souvent des symboles de puissance et d'autorité. Et les sept yeux, que ça dit, c'est sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu. Les sept yeux indiquent que cet agneau-là est rempli du Saint-Esprit, et ça parle aussi fort probablement de son omniscience, le fait qu'il sait tout. Et dans le verset 7, ça dit, et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Donc l'agneau vint et il a pris le livre de la main de Dieu le Père qui est assis sur le trône. Cela nous rappelle que Christ, comme médiateur, a reçu lors de son ascension l'autorité de gouverner l'univers selon le décret immuable de Dieu. C'est le couronnement de Christ après son ascension dans la gloire et dans l'honneur. On va, il nous reste encore quelques minutes, on va on va juste arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il nous en reste encore quand même un bon bout à faire pour ne pas couper les idées. On va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera la semaine prochaine. Alors, on va terminer aujourd'hui.